Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin.
Nous avons vu la semaine dernière comment, dans la haute Mésopotamie du XVIIIe siècle avant notre ère, preuve écrite et preuve testimoniale, loin de s'opposer, n'étaient en fait que les deux faces d'une même réalité. Et un auditeur attentif m'a demandé, après le cours, ce qui se passait en cas de contradiction entre un acte écrit produit par une partie et les témoignages suscités par l'autre. Et j'ai dû dire que je n'avais pas repéré de situation de ce genre dans notre corpus, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Ce qu'on connaît en revanche, ce sont des exemples où deux affirmations de témoins sont contradictoires, et dans ce cas, mais pas seulement dans ce cas, les parties étaient soumises à un serment. De nos jours, même si les présidents américains jurent toujours sur la Bible, il faut bien avouer que les serments n'ont plus qu'une valeur très relative, car beaucoup de nos contemporains ne croient pas à une justice transcendante. La situation dans la haute Mésopotamie du XVIIIe siècle avant notre ère était bien différente. L'existence des divinités n'était pas affaire de croyances individuelles, elle s'imposait à tous les membres de la société, et parfois on avait besoin de voir les cas les plus difficiles tranchés, on avait alors recours à l'ordalie. On commence donc par les serments. Les plus courants accompagnaient les contrats mis par écrit. Les parties s'engageaient à ne pas revenir sur l'affaire conclue, qu'il s'agisse d'une vente, d'un mariage, d'une adoption, etc. Mais on voit également que le serment occupait une place centrale dans la procédure judiciaire. Francesca Nebbiolo a soutenu, il y a quelques années sous ma direction, une thèse sur ce sujet, dont elle a déjà tiré un article. Je voudrais aujourd'hui reprendre la question en la centrant sur la haute Mésopotamie du XVIIIe siècle et en ajoutant au dossier quelques documents encore inédits. Bien souvent, les serments faisaient suite à une décision judiciaire, comme le montre cette lettre de Ikshoud à Pashu. Yashub Dagan, homme de Zinyan Yarapalum, a rencontré Monseigneur à Sagaratum. Et Monseigneur lui a rendu le jugement suivant. Le maire et les anciens de la ville qui sont au courant doivent se tenir devant les dieux et prêter serment. Si les gens n'ont pas fait le partage, l'aîné doit prendre une double part et le cadet une part. Voilà le jugement que leur a rendu Monseigneur. Selon le jugement qu'a rendu Monseigneur, l'éclair du dieu Addou et le dieu Ashtabiel ont siégé. Moi-même, Koussiya le maire, les anciens et le district tout entier, nous nous sommes réunis et l'affaire a été exposée. J'ai assigné le maire de la ville et les anciens à prêter serment par le dieu. Tous se sont récriés, les gens ont fait le partage, nous n'avons pas à jurer. Yashub Dagan s'est rendu par devant les dieux et a déclaré « Je jure que nous n'avons pas partagé la Hatnoutoum et que je veux bien donner la Hatnoutoum au palais. Vu que je me suis tenu au service de Monseigneur et de Madame, je leur donnerai la part du palais. » Aujourd'hui, voilà que cet homme est parti pour chez Monseigneur. Monseigneur doit lui donner son droit. Alors la compréhension de cette affaire est rendue très délicate par le fait que nous n'avons aucune idée de ce que c'est que la Hatnoutoum, c'est pourquoi dans la traduction le mot est resté tel quel. Il est clair toutefois que le contexte est celui d'un partage d'héritage, et vous vous rappelez sans doute que j'avais cité le début de cette lettre pour confirmer la coutume dans le royaume de Marie d'attribuer à l'aîné une part double. L'objet du serment que la municipalité devait prêter, c'était l'existence ou non d'un partage, mais le maire et les anciens refusent de s'y soumettre, et c'est donc le plaignant, Yashub El, qui le fit, et il s'engagea à donner au palais cette fameuse Hatnoutoum. À la suite de cela, il devait aller à Marie pour que le roi règle définitivement son cas. Nous allons maintenant examiner ce qu'on pourrait appeler la mécanique du serment, avant de voir par qui et où on prêtait serment. Il existe une véritable mécanique du serment qui faisait que celui qui jurait mettait en jeu des forces surnaturelles qui pouvaient éventuellement l'anéantir. À Marie, le dieu des serments était Itour-Mère. C'est dans son article sur le Panthéon de Marie de 1985 que Wilfred Lambert a proposé pour la première fois de considérer qu'Itourmer était le dieu de la ville de Marie, tandis que Dagan était à la tête du Panthéon de la région. Et Jean-Marie Durand avait débuté l'article qu'il a consacré en 1997 à Itourmer, dieu des serments, en ces termes. Le paradoxe est que si on s'accorde à donner beaucoup d'importance à la figure du dieu Itourmer, on ne peut guère en dire rien de précis. Il entre ainsi dans une longue série de dieux politiques auxquels on attribue une existence plus juridique que concrète, comme le dieu Ashur lui-même. Ce sont des divinités autour desquelles semble s'être créée une unité de commande et qui sont le reflet divin de la cité terrestre. Un texte magnifique, qui avait déjà été signalé par Georges Dossin et cité par Jean-Marie Durand, a été publié en 2020 par Michael Guichard. Son auteur est inconnu, mais fort heureusement, le nom de Zimri-Lim est suffisamment conservé à la ligne 8 pour que la date de composition du texte soit sûre. Cet hymne met avant tout l'accent sur la justice du Dieu. Il y a une sorte de refrain qui revient par trois fois et que j'ai mis en rouge à l'écran, et je vous demanderai de vous imaginer que vous êtes dans le temple d'Itourmer et je vais lire ce qui est en noir et vous reprendrez le refrain en même temps que moi. Je veux louer Itourmer le fort, qui détruit le méchant dans son pays, qui instaure la justice dans sa capitale. Ceux qui ne craignent pas Itourmer, il a brisé leur pays, il les a privés de fils et de filles. Cessez vos activités, passez la porte d'Itourmer, il protège ceux qui le craignent, ceux qui ne le craignent pas, il s'empare de leur demeure. Vaillant Itourmer, béni Zimri-Lim le roi pour toujours. Je veux chanter Itourmer et proclamer sa force, lui qui rend un jugement d'équité, qui gouverne les petits et les grands. Bon relatif au jugement, il, et puis là il y a un passage cassé, se tienne à sa droite et à sa gauche. Itourmer siège, il scrute le cœur du méchant. Vaillant Itourmer, béni Zimri-Lim le roi pour toujours. Itourmer aime la justice, il a maudit le méchant. Il va par la grande rue contre le méchant. Itourmer frappe le genou du méchant. Au passant, il tente une embuscade. Le méchant est pris de douleur dans sa demeure, telle une femme dans les douleurs de l'accouchement. Qu'ainsi soient traités ceux qui ont prêté serment par Itourmer. Il a égorgé les méchants, il a abreuvé la terre de leur sang. Vaillant Itourmer, béni Zimri-Lim le roi pour toujours. Il a mis en cage tel un oiseau, celui qui, à sa force, que les gens qui suivent Zimri-Lim fassent confiance. Voilà, c'est un très beau texte, comme vous voyez. Mais si vous regardez à l'écran, vous constatez que la tablette est assez mal écrite, les lignes remontent, il ne s'agit pas d'une copie soignée. En revanche, le texte est très élaboré du point de vue littéraire, il est divisé en trois strophes, suivies d'une conclusion, ces strophes étant matérialisées par des traits et surtout par un refrain où l'on s'adresse à Itourmer à la deuxième personne, alors que le reste du texte loue le dieu à la troisième personne. L'auteur du texte intervient à la première personne au début des deux strophes initiales que j'ai mises ici en vert. La première met l'accent sur le contraste entre un Itourmer juste et protecteur de ses dévots et un dieu sans pitié pour les méchants. La deuxième strophe semble évoquer une séance dans un tribunal où siège le dieu Itourmer, et il est très dommage que le texte soit mal conservé à cet endroit. La probabilité de découvrir un duplicat est assez faible, pour ne pas dire nulle. Et puis la troisième strophe est tout entière consacrée au châtiment des parjures par Itourmer. De fait, enfreindre son serment était très risqué et les gens en avaient conscience. Un texte encore inédit décrit comment un individu doit se disculper d'une accusation d'adultère. Il s'agit d'une lettre à Yasmaradou dont l'auteur indique ex abrupto « Voilà que je viens d'envoyer le jeune homme. Prononce son jugement. Apilsine doit entrer dans le temple du Dieu fort avec ses témoins et prêter serment en ces termes. Si l'épouse d'Uznanoum m'a fait approcher en l'absence du mari, que je franchisse la limite du Dieu. Si elle a donné au jeune homme de l'argent, ou que mon serviteur, l'ayant pris, l'a apporté à une fille du Dieu ou chez moi, que je déchaîne le Dieu contre moi. Sinon, si elle a séduit le jeune homme, que le Dieu me damne. » Alors l'auteur de la lettre est agaçant pour nous, parce qu'il ne donne pas le nom du jeune homme en cause, pas plus que celui du Dieu fort dans le temple duquel le serment doit être prononcé. On peut penser qu'il s'agit d'Itourmer, qui a aussi l'épithète de fort dans l'hymne que nous venons de proclamer. En tout cas, puisque le jugement doit être rendu par Yasmaradou, il serait logique que le serment soit prêté dans le temple d'Itourmer. Et je rappellerai que, du point de vue archéologique, ce temple n'a pas été retrouvé, ou du moins identifié, sur le Tel Hariri. En ce qui concerne la procédure, la série d'auto-malédictions qu'Apelsine doit prononcer est tout à fait remarquable. Jusqu'à présent, ce qui était documenté dans la haute Mésopotamie du XVIIIe siècle concernait en effet uniquement les serments d'alliance, donc le domaine politique, et ici, on est dans le droit des personnes. La première notion évoquée est celle de franchir la limite du dieu. En akkadien, itam et tekum. Et grâce à la nouvelle version d'Archibab, qui est encore en préparation, j'ai pu repérer d'autres exemples de cette expression dans les archives de Marie. D'abord dans un texte qui décrit ce qui se passe à Babylone, à un moment où des messagers élamites sont furieux parce qu'ils ne sont pas admis en audience. Eh bien, le ministre et le secrétaire de Hammurabi leur expliquent, je cite, « Pourquoi ne cessez-vous de crier à la porte du palais et déchirez-vous vos vêtements ?» Votre maître a enfreint son serment par les dieux. Et la tablette dit littéralement, a franchi les limites de son serment par les dieux. Ite nishilishu et itik. Et il se dispose à commettre une faute et agir de façon inconvenante. Un autre exemple se situe lors d'une période de conflit entre Atamrum d'Andarig et Hammurabi de Kourda. On a déjà parlé de cet antagonisme entre ces deux rois. Atamrum avait mis le siège à la ville d'Ashirum, dans laquelle se trouvaient des soldats de Kourda dirigés par le général Sagar Abi. Yasimel assistait au siège, mais il insista bien au début de sa lettre sur le fait que le roi de Marie, n'ayant pas déclaré la guerre au roi de Kourda, il se tenait à l'écart du combat, se dérobant aux provocations de Sagar Abi. Et Yasimel adressa à ce dernier un message qui n'est pas très bien conservé, mais qu'il me semble possible de restituer ainsi. « Toi, tu as outrepassé la grande limite du dieu de ton seigneur. » Et tu ne cesses de faire des sorties au devant des troupes de mon Seigneur sans déclaration de guerre, littéralement dans le non-combat. Combattre sans une déclaration de guerre en bonne et due forme constituait manifestement une grave infraction dans le code diplomatique de cette période. Il nous faut maintenant étudier une autre expression essentielle dans ce contexte. Elle se dit en akkadien « asakam akalum » qu'on traduit souvent par « manger un tabou » ou « manger un serment sacro-saint ». Alors, comment est-ce qu'on peut manger un serment? Eh bien, on va voir. J'ai déjà consacré deux études à ce sujet et je vais brièvement les résumer. On pouvait aussi bien jurer « tamum » que manger à Kaloum, non seulement un serment nishum, mais aussi un tabou à Sakoum, ou encore des substances désignées par le surmérogramme Sar Mesh. Et on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il s'agit. En tout cas, si on veut expliquer ces permutations, on est amené à penser que l'énoncé du serment s'accompagnait de l'ingestion de matière porteuse d'une malédiction au cas où le jureur transgresserait son serment. Une sorte de bombe à retardement, si vous me pardonnez l'expression. Et cette conception est explicite dans un serment plus tardif d'époque néo-assyrienne, je cite, « De même que le pain et le vin pénètrent dans vos intestins, que de même les dieux mentionnés fassent entrer ce serment dans vos intestins et dans ceux de vos fils et de vos filles. » Et donc la combinaison de ces deux formules, celle de la sakoum que l'on mange et celle de la limite que l'on franchit, apparaît dans une lettre de Tzidki Épour. Celui-ci fut le ministre de l'économie de Zimri-Lim à la fin de son règne, et il proteste de n'avoir privé personne des terres auxquelles chacun avait droit, ajoutant « Celui à qui j'aurais retiré son champ ou sa ferme, parmi les notables, les domestiques et les serviteurs de mon seigneur, si ne serait-ce qu'un homme se lève et m'en convainc, il me montrerait comme quelqu'un qui a mangé le serment sacro-saint, on retrouve l'expression asaka makalum, quelqu'un qui a mangé le serment sacro-saint de son seigneur et qui a franchi la limite. » L'addition des deux formules est unique et elle souligne manifestement l'indignation du ministre à l'idée qu'on puisse mettre sa probité en doute. Les serments s'accompagnaient parfois d'autres gestes symboliques. Un texte inédit que j'ai déjà cité parle d'une affaire où l'épouse d'un homme doit témoigner, et la lettre indique « L'épouse de l'individu devra déposer sous serment, puis manum balumcha, se toucher la gorge, jurer devant le Dieu, et alors seulement prendre son argent. » Et le passage est très important parce que jusqu'à présent, le texte consistant à se toucher la gorge n'apparaissait que dans le contexte de la conclusion des alliances. Et c'est un geste qui montrait qu'on mettait en jeu sa propre vie. Eh bien, cette lettre montre qu'un tel geste n'était nullement une pratique limitée au roi. Un simple particulier pouvait aussi l'accomplir dans le cadre d'une affaire privée. Nous allons maintenant regarder par qui et où les serments étaient prêtés. La rédaction des serments des textes juridiques paléo-babyloniens comporte deux possibilités principales. La première consiste en une mention du roi seul, nommé ou pas, dans le tableau qui est affiché à l'écran. On relève des cas où le souverain est mentionné par son nom, ARM 8.2 sous Sumuyamam, ARM 8.4 sous Yasmaradu et ARM 8.10 sous Imrilim. Le Zi commence une lacune, mais il n'y a pas de doute sur la restitution du nom du roi. On note deux cas particuliers. Dans ARM 8.16, le nom de Zimri-Lim est précédé par celui du roi alors défunt Yardunlim, et dans ARM 8.11, le serment nomme, en plus de Samsiadou et de Yasmaradou, l'ancêtre divinisé Awin. Le deuxième schéma classique énumère la divinité locale ou les divinités locales, puis le dieu de la capitale et enfin le roi. Donc dans le royaume de Babylone, à Dilbat par exemple, on a des serments par Ourash, qui est la principale divinité locale, Marduk, le dieu de Babylone, et le roi. Eh bien les textes juridiques découverts à Marie montrent des schémas différents. La difficulté principale pour les commenter, c'est notre ignorance, la plupart du temps, du lieu de rédaction de la plupart de ces textes qui ont atterri dans le palais. Vous vous rappelez ce que nous avons dit à cet égard. Le texte ARM 8.85, le voici, rédigé à Hanat, dont on a déjà parlé, fait exception, sont invoqués Dagan, donc qui est le dieu de la région, Itourmer, qui est le dieu de la capitale, Hanat, qui est la déesse locale, puisque l'affaire se passe dans la ville de Hanat, et puis le roi. Très simple est également le cas des textes qui mentionnent Itourmer, le dieu de Marie, et le roi. On le voit dans l'inédit A2282 sous Yasmaradou et dans l'inédit A2154 sous Zimri-Lim. Et c'est la formule qu'on attend pour des textes juridiques rédigés dans la capitale. Certains textes ajoutent devant Itourmer et le roi une autre divinité, comme Adou, sous la forme de l'idéogramme d'Ingir Ishkur dans ARM 8.3 sous Sumuyamam, ou encore Shamash dans ARM 8.1 sous Yasmaradou. Je m'étais jadis étonné que certains textes mentionnent simplement Hadou et le roi, comme dans ARM 8.14 sous Yasmaradou, mais on sait maintenant que ce texte, qui appartient aux archives de Yarimadou, a été rédigé dans la ville d'Appan, dont la divinité protectrice était le dieu de l'orage Hadou, vous vous rappelez ce que nous en avons dit il y a 2 semaines. On trouve parfois seulement Dagan et le roi dans l'inédit T309 sous Yardounlim ou encore dans ARM 8.6 sous Yasmaradou. Et curieusement, c'est dans 2 lettres qu'on trouve le schéma qui deviendra classique après la chute de Zimrilim. Une première lettre dit « Il a mangé l'assakoum de Dagan et d'Itourmer, l'assakoum de Samsiadou et de Yasmaradou ». Donc il y a Dagan, Itourmer et les 2 rois de l'époque, puisque sous Yasmaradou, il y a également la tutelle de son père Samsiadou. Et puis dans ARM 3.19, qui date de l'époque de Zimrilim, je leur ai fait prêter un serment par Dagan, Itourmer et Monseigneur, donc Zimrilim. Dans ce schéma, eh bien, on voit donc que Dagan figure comme la divinité régionale, et j'ai déjà dit que, d'une certaine façon, la situation de Dagan à Terka, sous Yasmaradou et Zimrilim, était un peu analogue à celle du dieu Enlil à Nippur. Enlil, en effet, n'était pas le dieu de Nippur, mais le dieu de tout Sumer, eh bien, et c'était Ninurta qui était le dieu de la ville de Nippur, par qui on jurait dans les textes juridiques, et à qui on vouait des religieuses Naditum. De la même manière, Dagan était le maître de tout le Moyen-Euphrate, avec son temple principal à Terka, mais les véritables dieux de Terka, c'est la paire formée par Lagamal et Ikshudum. En dehors des contrats mis par écrit, comment étaient choisis les dieux par lesquels un individu ou un groupe devait jurer? Il s'agissait d'abord de divinités locales. Dans une lettre à Yasmaradou, Hammanum, qui était le gouverneur de la région du Souroum, raconte par le menu une querelle des clans locaux relative à l'accès à l'eau. Parmi leurs anciens qui se sont réunis, on a choisi 15, et puis un mot cassé, ils ont prêté serment à Itourmer, au dieu Yablia, à la déesse Hanat, à Shamash et à Dou. Les anciens des Souréens ont déclaré sous serment « Le clan Pouliila tient les Oueds et le clan Bar-Halanoum tient la limite de la steppe. Il y a entre eux un Naroum » et on ne sait pas ici si c'est un Naroum, une stèle, ou un Naroum, un fleuve. Le passage est ambigu. « Le clan Bar-Halanoum n'a pas reçu les Oueds. Les témoins des Souréiens ayant fait connaître les accords jurés, j'ai élevé un monument commémoratif et j'ai égorgé des béliers à Ilou. » Il est intéressant ici de voir intervenir, outre le dieu de Marie Itourmer, des divinités locales dont les noms sont aussi ceux des 2 villes majeures de la région, Yablia et Hanat. Donc on a ici une divinisation du lieu, comme sur le Tigre, c'est le cas de Achour, qui est à la fois le nom de la ville et le nom du dieu principal de la ville. Et puis s'ajoutent dans notre texte 2 divinités majeures du panthéon mésopotamien, le dieu soleil Shamash et le dieu de l'orage Hadou. D'une façon très intéressante, une lettre du chef nomade Ibal-El présente une alternative. Si on ne peut pas prêter serment devant Itourmer, ce qui impliquerait de venir à Marie, eh bien les Bédouins pourraient simplement jurer par les dieux de la steppe. Je cite le texte, relativement à l'affaire des enfants de Karadoum, à propos desquels, de laquelle Monseigneur m'avait écrit en ces termes, envoie-moi donc les 2 personnes qui appartiennent à son adversaire, afin qu'il jure le serment du dieu par devant Itourmer. Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. Auparavant, Monseigneur m'avait dit ceci. Pourquoi donc, lorsqu'il y a un procès où il faut recourir à un serment parmi les Bédouins, le serment par le dieu n'est-il pas juré par les dieux qui sont dans la steppe? Or, pour l'heure, les froids viennent d'arriver et les garçons et fillettes sont dans la ville de Der. Maintenant, faut-il amener le garçon ou bien ici même doit-il prêter serment par les dieux de la steppe? Ou sinon encore, pourra-t-il prêter le serment du dieu par les dieux de Monseigneur, lorsque Monseigneur viendra dans le haut pays. Donc on voit qu'il y a trois possibilités évoquées par Ibal-El: un serment par Itourmer à Marie, un serment par les dieux de la steppe, et là j'imagine que comme moi vous êtes frustrés parce qu'ils ne sont pas nommés, on aurait bien aimé savoir de quel dieu il s'agissait, et puis finalement un serment par les dieux de Zimrilim, et là encore, manifestement, il ne s'agit pas d'Itourmer, qui est le dieu de la ville de Marie, mais alors, de qui s'agit-il? Sans doute d'Eritum, mais le terme est au pluriel, et donc vous voyez à quel point ce texte est à la fois très riche et en même temps, malheureusement pour nous, incomplet. Lorsqu'une affaire avait des ramifications internationales, le choix des dieux pouvait être laissé aux jureurs. Une lettre de Tsitkumlanassi, écrivant depuis Carchemish au roi de Marie Zimrilim, rapporte une affaire de marchand assez embrouillée qui se déroule entre Carchemish, donc sur le haut Moyen-Euphrate, et Katna, en Syrie occidentale. Concernant le marchand Nabissine, à propos duquel Monseigneur m'a écrit, pour l'heure, Ishtar al-Natsir est parfaitement informé de toutes ces affaires. Nabissine avait dit ceci: « Je n'irai sûrement pas à Marie. En aucune façon, je ne veux y aller. Je dois aller faire prêter à Katna un serment par les dieux au sieur Tutsatan, le neveu d'Idin Koubi. Il devra prêter serment de la sorte. Je jure qu'Idin Koubi n'a pas de dette d'argent envers Idin Dagan, le père de Nabissine, que je ne sais rien et que je n'ai rien entendu à ce sujet. » Voilà ce qu'il devra jurer pour que je puisse briser ma tablette et partir. » La lettre reprend après cette citation. « En fonction de la teneur de ses propos, nous avons envoyé une tablette à Yassiel et au Karoum de Katna, et à Katna, Nabissine a saisi Tutsatan en disant « Jure-moi le serment par les dieux. » Ce à quoi Tutsatan a répondu « Fais-moi prêter serment par les dieux de ton choix. » Mais lorsque Nabissine a entrepris de le faire jurer, l'autre n'a pas voulu. Nabissine s'est alors dressé et s'est mis à crier « Dehors, dehors !» Puis il est parti, mais il n'est pas encore revenu à Carchemish pour l'essentiel de son affaire. Donc cette notion de choix des dieux par lesquels jurer est très intéressante, et on aimerait bien savoir ce que proposa Nabissine à toute Satan, qui fit que celui-ci se récusa. À Marie, Les serments étaient en principe prêtés dans le temple d'Itourmer, siège ordinaire des procès, comme le montre cette lettre inédite. Comme je l'avais dit à Monseigneur dans le camp, pourquoi Monseigneur n'a-t-il pas écrit en vue d'un procès équitable à Bannoum, de sorte qu'il me procure une sentence dans le temple d'Itourwer? En effet, mon père m'a laissé les biens en totalité. Vous notez au passage cette graphie rare, Itourwer, à la place de Itourmer, qui met fin à une vieille discussion. Parfois, c'est la saison qui rendait problématique le déplacement des gens qui devaient prêter serment. Un gouverneur de Katounan écrit au roi de Marie, « Il faut qu'après avoir délibéré, Monseigneur leur réponde ceci. Puisque l'affaire est embrouillée, allez faire jurer vos interprètes à Katounan ou à Kourda. Mais peut-être diront-ils qu'on nous les amène ici. C'est ici, devant Itourmer, qu'ils doivent jurer. Alors que Monseigneur leur réponde, c'est l'époque de la moisson. On ne doit pas laisser à l'abandon sa moisson ni la moisson du palais. C'est moi qui vais monter. Faites donc jurer vos témoins sur les emblèmes divins qui m'accompagneront. Voilà ce que Monseigneur doit leur répondre. » Et on voit donc ici, une fois de plus, l'intérêt des emblèmes divins. C'était un moyen commode de rendre les dieux présents là où on avait besoin de leurs sanctions, sans que les individus aient besoin de se rendre dans leur temple. Et si je reprends le texte que nous avons déjà vu tout à l'heure, il y est dit « Selon le jugement qu'a rendu Monseigneur, l'éclair d'Addou et le serment du dieu, l'éclair d'Addou, pardon, et le dieu Ashtabiel ont siégé. » Et parfois, ces armes divines se déplaçaient sur le lieu du litige. Martin Stoll a réuni de nombreux exemples, et l'un d'eux concerne le royaume d'Andarig, au sud du Djebel Sinjar. L'auteur de la lettre écrit « Atamroum leur a répondu ainsi, et là il s'agit d'une affaire privée, « Ce champ-là, je l'ai ensemencé de grains. Je veux en faire la moisson et avoir le temps d'en faire sécher la paille. Après la moisson, que le foudre du dieu Addou et l'arme du dieu Shamash siègent dans ce champ et qu'elles confirment le propriétaire dans son champ. Si ce champ est tien, toi, prends-le. Mais s'il est mien, c'est moi qui le prendrai. Nous n'avons pas de représentation, sauf erreur de ma part, du foudre d'Addou ou du disque solaire à Marie, et donc j'ai choisi un bas-relief assyrien bien postérieur, mais la forme des symboles était déjà la même à cette époque. Nous avons vu qu'avec le serment, le jureur mettait sa vie en jeu, et les auto-malédictions nous l'ont montré explicitement. Celui qui jurait accepter que s'il ne disait pas la vérité concernant un fait passé, ou si à l'avenir il ne respectait pas ce à quoi il s'était engagé par serment, il soit soumis à une punition divine. Le prolongement de cette conception du rapport entre la justice et le monde des dieux se trouve dans l'Ordalie. Dans ce cas, c'est en effet en quelque sorte en direct que la punition divine était infligée au parjure. Mais, comme nous allons le voir, cette punition ne frappait pas forcément l'intéressé, car celui-ci ou celle-ci pouvait déléguer un autre individu ou un groupe d'individus pour se soumettre à l'épreuve ordalique. L'ordalie était une pratique juridique courante dans tout le Proche-Orient ancien. Elle est mentionnée dans certains codes de loi dès l'époque d'Ourtrois, dans les documents d'archives depuis l'époque pré-sargonique. L'intérêt principal des textes de Marie, c'est de nous fournir de nombreux détails sur la manière dont elle était pratiquée, ce qui n'empêche pas que l'interprétation de ces textes ait donné lieu, parfois, à de profondes divergences. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux mots d'historiographie. Le premier texte relatif à une ordalie, c'est celui que Dossin dédia à Paul Kochaker en 1939, et 9 ans plus tard, il faisait à l'Académie une communication sur l'ordalie à Marie où il citait en traduction 2 nouvelles lettres. En 1977, Tivka Freimer-Kansky écrivait une thèse sur le sujet qui englobait toutes les sources mésopotamiennes de toutes époques, connues à cette date. Les 2 lettres que Dossin avait fait connaître en 1958 ont été éditées par Jean Bottero en 1981 et en 1988, Jean-Marie Durand reprenait le dossier dans la 5e partie de ARM 26.1 avec pas moins de 9 textes supplémentaires. En 1992, j'ai ajouté un texte de plus. Et l'année d'après, Guillaume Cardassia reprenait la question dans un article de la revue historique de droit français et étranger. En 1996, Wolfgang Heimpel présentait une hypothèse originale, mais qui n'a pas convaincu. Une synthèse des données de Marie a été donnée par Antoine Jacquet en 2008, et 2 textes supplémentaires d'époque Chakanaku, donc juste avant et au début du règne de Yardoumlim, en fait, ont été publiés par Antoine Cavigno en 2019. Alors, il faut d'abord situer les ordalies. La documentation de Marie relative à l'ordalie fait toujours référence à la ville de Hit ou Ida, sur le moyen Euphrate inférieur, à l'extrémité méridionale de la province du Souroum. Cette ville a gardé son nom depuis l'Antiquité, puisque aujourd'hui encore, en Irak, on parle de Hit, et elle est célèbre pour ses sources de bitume. Dans certains textes, Hit ou Ida est mentionné explicitement, et dans d'autres, le rapport sur l'épreuve ordalique est fait par Meptoum, qui était le représentant de Zimrilim dans la région du Souroum. Pour décrire une ordalie, on disait à peu près uniformément « aller au fleuve », mais le problème, c'est que Dingir Iset ou Dingir Iset Da servait, cet idéogramme servait à désigner à la fois le fleuve divinisé et la ville de Hit. Il est tout à fait remarquable de voir à quel point les ordalies se cristallisent, si je puis dire, en ce lieu précis. On voit des gens venir depuis l'Idamaratz, donc triangle du Rabour, depuis les régions occidentales, Alep, Karkemish, Himar, et même, on va le voir, Delam. C'était Meptoum qui dirigeait sur place les opérations dans un certain nombre de cas. Voici le début d'un de ses comptes rendus au roi de Marie Zimrilim. Une troupe de Yamhadéens est descendue vers moi. Cette troupe accompagnait une fillette, un jeune garçon et une femme pour subir leur dali, littéralement pour plonger dans le fleuve. Je me suis enquis d'une autorisation royale. Comme il n'était point porteur d'une tablette de Monseigneur, j'ai arrêté cette troupe et je l'ai interrogée. Vient ensuite une description de Lord Dali que nous allons voir tout à l'heure, et puis la lettre s'achève ainsi. Une autre fois, quand un groupe de plongeurs m'arrivera, il ne faut pas qu'ils viennent sans tablette de Monseigneur. On voit donc que n'importe qui ne pouvait pas arriver à Hit pour une Lord Dali. Il fallait une autorisation en bonne et due forme du roi de Marie. On venait de plus loin encore, comme le montre la fin d'une lettre d'Ishridagan à Zimrilim. Autre chose, l'empereur des Lames a envoyé deux élamites pour plonger dans le fleuve. L'empereur des Lames a tenu ses propos aux gens qui formaient notre escorte. Faites plonger dans le fleuve ces deux hommes, puis allez à Marie et ramenez-les. J'ai écrit à Monseigneur, que Monseigneur soit informé. Le problème de cette centralisation des ordalies à Hit pose problème. En effet, quand vous êtes à Carchemish ou à Himar, vous êtes directement sur l'Euphrate. Et donc, on voit que ça n'est pas le fleuve en tant que tel qui était intéressant, mais l'endroit même de Hit, et on essaiera tout à l'heure de comprendre pourquoi. Antoine Jacquet a proposé une typologie des cas où l'on avait recours à l'ordalie que je reprends ici. Certaines ordalies portaient sur des sujets de nature économique. C'est le cas dans cette lettre que je n'ai pas à l'écran, et donc que je vous lis sans support. Autre chose, 80 Himariotes notables du pays arrivent à cause de l'argent de la déesse, reine du pays, Baltamatim. Ils vont à, et puis c'est cassé, pour plonger dans le fleuve. Au port d'Himar, on m'a dit « porte-toi garant pour eux ». Et il y a la réponse qui est un peu cassée, qui se termine par « je ne me porterai pas garant pour eux ». Et le texte se poursuit, assurément, moi-même, le troisième jour après ma présente tablette, j'arriverai chez Monseigneur, et ces hommes viennent de continuer leur route pour aller chez Monseigneur. On sait que Belet Matim était une des divinités principales d'Emar, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est que cette histoire d'argent. On voit simplement donc qu'il s'agit d'un problème économique. Souvent, il s'agit de conflits entre rois qui portent sur la possession d'une ville. C'est ce que montre une lettre de Yamratz El, un vassal de Zimrilim, dans le triangle du Rabour. Alors, il y a une première lettre au sujet des villes que le sire Damas détient. Monseigneur a rendu ce jugement et il a fixé, et puis là il y a une cassure, à présent, Atamroum vient d'entrer à Shubat Enlil, maintenant que Monseigneur écrive à Atamroum pour qu'il règle l'affaire de ces villes. Lorsque le sire Damas s'est emparé de ces villes dans leur totalité appartenaient bel et bien à Monseigneur seul. Cet homme doit aller au fleuve, encore une fois, se soumettre à une ordalie. S'il remonte donc de l'eau, une seule ville entraînera l'autre, on a un parallèle pour l'expression. S'il n'en est pas ainsi, quel droit aura-t-il sur ces villes? Il faut qu'il rende complètement mes villes. Et Yumratzel écrivit une deuxième lettre à Zimrilim qui l'informe que sa médiation avait échoué. À propos du jugement que Monseigneur a rendu, ils n'ont pas accepté le jugement de Monseigneur, s'exprimant en ces termes « jamais nous n'irons au fleuve et ne céderons les villes. Mais toi, tu peux t'emparer des villes par les armes. » Autrement dit, pas de règlement judiciaire, c'est par les armes que l'affaire sera réglée. Il y a aussi des cas où, sans flagrant délit, la preuve est difficile à apporter. C'est notamment le cas lorsqu'il y a des accusations de sorcellerie ou d'adultère. On en a déjà parlé à propos des témoignages. Et je reprends ici le cas des Yamhadéens qui sont venus par une ordalie. La lettre de Meptoum indiquait « Voici ce qu'on a fait dire à la femme. Je jure que ma fille, Marat Ishtar, n'a pas fait d'ensorcellement contre Rami Eppur, fils de Dadia. Cette femme, ni à la porte, ni ailleurs, n'a donné de bois ensorcelé, ni ne l'a fait manger à Hamiépour, fils de Dadia, sous forme de pain, de nourriture, de bière ou de quoi que ce soit. Comme on lui avait fait tenir ses propos, elle est tombée à l'intérieur du dieu et elle est morte. Elle n'a pas été sauvée. Le jeune homme se trouve libéré de l'ensorcellement. C'est donc la mère qui est soumise à une ordalie à propos d'une accusation de sorcellerie qui pèse sur sa fille. Et s'il est bien un domaine où la preuve est difficile à apporter, c'est bien le cas de la sorcellerie et on comprend qu'on ait recouru à l'ordalie. La même chose vaut pour l'adultère, on le verra un petit peu plus tard. Troisième type d'accusation, cette fois de nature politique. C'est ainsi que le roi de Carchemish souhaita que deux hommes accusés de trahison soient conduits à Hit pour être soumis à une ordalie. Dis à Zimrilim, ainsi parle Yatarami, ton fils. Or donc, ces deux hommes que j'ai envoyés avec Napsouna-Hadou, on les a mentionnés en ces termes à propos de cette affaire de la vie d'Irid dont on a entendu parler. Ils se sont entretenus avec Mébissa, le serviteur de Bounouma-Hadou. Ils étaient au courant de l'affaire. Or voici que je viens de les faire conduire à Hit, et on garde ici en prison leur accusateur. Ces hommes, qu'un de tes serviteurs de confiance les conduise à Hit avec Napsouna-Hadou, si ces hommes sont saufs, je ferai brûler par le feu leur accusateur. Si ces hommes meurent, ici je donnerai leur maison et leurs gens à leur accusateur. Il faut que mon père me rapporte leur affaire. À cette époque-là, il y avait un grave conflit qui opposait Bounouma-Hadou, un des rois du Zalmakoum, au roi de Carchemish, qui était l'allié du roi de Marie, et un des enjeux de ce conflit, c'était la ville d'Irid. Et donc, si des sujets du roi de Carchemish se sont entretenus avec un serviteur de Bounouma-Hadou, il s'agit d'un cas de trahison. Donc, il y avait à cette époque un conflit qui opposait Bounouma-Hadou, un des rois du Zalmakoum, au roi de Carchemish, qui était un allié du roi de Marie, avec comme enjeu la ville d'Irid. Et donc, si des sujets du roi de Carchemish s'entretiennent avec un serviteur de Bounouma-Hadou, on soupçonne qu'il s'agit d'une trahison. Et le texte est intéressant parce qu'il applique le même principe que celui qu'on trouve dans le code de Hammurabi, c'est-à-dire que l'accusateur peut soit subir le sort de celui qu'il a accusé si l'accusé est reconnu innocent, et en revanche, les choses s'inversent dans le cas contraire, d'où l'importance de connaître le résultat de l'ordalie. Dans certains cas, la question se posait de savoir si on ne pouvait pas exécuter directement un coupable ou s'il fallait passer par l'épreuve ordalique. C'est ce que montre une lettre sans adresse écrite depuis Babylone qui montre une divergence de vue entre l'auteur de la lettre et le secrétaire de Hammurabi de Babylone, Sin-Belaplim. Sin-Belaplim dit « Le roi, pourquoi se fâchera-t-il avec moi et contracterai-je une faute aux yeux de mon seigneur ?» Voilà ce qu'a dit Sin-Belaplim et je lui ai répondu « L'affaire dont ils ont parlé est grave et n'est pas de celle qui se règle par un procès, sa vie est en jeu, la vie donc de celui qui est accusé. Il n'a pas été d'accord avec moi, il a pris ce jeune homme et l'a fait entrer dans l'ergastule, et le lendemain, Sin-Belaplim m'a dit « Il faut que les Bédouins qui ont saisi le jeune homme viennent et qu'ils plongent dans le fleuve. » Donc ce sera à eux de faire la preuve de leurs propos. « S'ils sont sains et saufs, que l'on frappe avec un clou dans la bouche de ce jeune homme. » On a déjà vu ce type de mise à mort. « Sinon, il faudra que ce jeune homme vienne et plonge dans le fleuve, afin que le fleuve s'empare de lui en fonction de ce qu'il aura dit. » Voilà ce qu'a dit Sin-Belaplim, et je lui ai répondu « Ces gens qui ont saisi ce jeune homme n'ont pas à plonger. » Et maintenant, à la porte du palais, puis là, il y a des cassures avec la troupe de Yakunru. Cela ne leur coûtera pas un seul pain, ils plongeront dans le fleuve. Les recommandations de Monseigneur sont très strictes à propos du fleuve. Ces gens doivent venir et par devant, encore une cassure, il leur faut verser de la poussière sur sa tête, un geste symbolique que nous avons déjà rencontré. Voilà ce que je leur ai dit, mais il n'a pas été d'accord avec moi. Ce jeune homme se trouve à l'intérieur de leur gastule et malheureusement, la suite est cassée. J'ai cherché désespérément le fragment manquant, mais je n'avais pas réussi. Alors on ignore le motif d'inculpation du jeune homme anonyme de cette affaire, mais l'auteur de la lettre estime manifestement qu'il mérite la peine de mort sans autre forme de procès, alors que son interlocuteur babylonien n'est pas d'accord. Il estime que c'est aux accusateurs de se soumettre à l'ordalie, et éventuellement on fera une ordalie contradictoire, c'est-à-dire qu'au cas où il serait blanchi, alors le jeune homme devrait s'y soumettre à son tour. Donc, on arrive ici à la question du déroulement de l'ordalie. En paléo-babylonien, en général, on disait « aller au fleuve », et dans certains textes de Marie, c'est le cas, mais d'autres disent spécifiquement qu'il s'agit de plonger dans le fleuve avec le verbe « chaloum ». Nous avons déjà vu que dans les litiges les plus courants, l'autorité qui prescrit la procédure, ce qui correspond à l'expression « dinam dinum » ou « dinam shuruzum », soumet l'une ou l'autre des parties à un serment. Or, on voit des cas où il ne s'agit pas d'un serment, l'ordre est d'aller au fleuve, autrement dit, donc, se soumettre à une ordalie. Un cas de ce genre concerne un conflit territorial entre Ili-Ishtar, le roi de Shouna, et Iliadou, le roi de Kiddour, qui se disputait la ville de Shunrum. Shubram, qui était alors roi de Susa dans le pays d'Apoum, écrit à Zimrilim pour se plaindre que la procédure qu'il avait ordonnée n'avait pas été suivie. Le roi de Marie avait en effet chargé son principal allié dans la région, Hayasumu, de régler l'affaire. « Quand Hayasumu est revenu de chez Monseigneur, écrit Shubram, au terme que Hayasumu avait fixé, conformément à l'ordre de Monseigneur, moi et les anciens du pays d'Apoum, les notables, Iliadou, le roi de Kiddour, et ses anciens, nous nous sommes rendus chez Hayasumu. Mais lui, c'est-à-dire Ili-Eshtar, le roi de Shouna, n'est pas venu et il n'a pas envoyé ses anciens. Il a envoyé Zaku, son serviteur, et un commis avec lui. Et Hayasumu nous a procuré la sentence suivante. Si cette ville est bien ta ville, que deux hommes et deux femmes originaires de Shouna prennent de la terre de cette ville et qu'ils plongent dans le fleuve en parlant en ces termes, je jure que cette ville est ma ville et que depuis les temps anciens, elle a été donnée comme part au clan Yabassoum. Je jure que ce ne sont pas les gens d'Apoum qui l'ont donnée en présent. Qu'ils disent cela, qu'ils plongent et qu'ils prennent cette ville. Sinon, que deux hommes et deux femmes originaires d'Apoum prennent de la terre de cette ville, qu'ils plongent dans le fleuve en disant « Je jure que cette ville appartient à Shubram et que depuis les temps anciens, elle a été donnée comme part au clan Hana. Qu'ils disent cela, qu'ils plongent et qu'ils prennent cette ville. » Voilà la sentence que Hayasumu nous a procurée, mais lui, Ili-Ishtar, n'a pas accepté la sentence que Hayasumu nous a procurée. Alors on ne sait pas très bien pourquoi Shubram se trouve impliqué dans cette affaire qui oppose les rois de Kiddoum et de Shouna, mais ce qui m'intéresse ici, c'est avant tout la manière dont Hayasumu organise l'affaire selon les instructions reçues du roi de Marie. Il procure une sentence, à nouveau dinam shuruzum aux parties, et en fonction de cela, l'une ou l'autre des parties doit déléguer des gens qui vont plonger en ayant pris symboliquement un morceau de terre de la ville. Et ils plongeront après avoir émis leurs revendications territoriales. On comprend qu'il ne soit pas question ici de titre de propriété, puisqu'il s'agissait de savoir à quel clan Simalite appartenait la ville de Shunrum, au clan des Yabassoum ou au clan des Rana, et donc ceci renvoie au moment où les Simalites se sont installés dans la région, à une date que malheureusement nous ne connaissons pas. Les exemples que nous avons déjà examinés nous ont montré que l'ordalie consistait donc à faire plonger des gens dans le fleuve. Une lettre d'Ibalpiel à Zimrilim décrit de façon très simple l'épreuve ordalique. Le jour où j'ai passé la nuit à Hit, au matin, en notre présence, l'homme, le frère de Hamikuna, ainsi que la femme que mon seigneur avait envoyée pour plonger, ont plongé. L'homme est ressorti sain et sauf, et la femme est ressortie aussi. Tous deux sont ressortis. Mais les choses sont parfois plus compliquées, comme nous l'apprend une lettre de Meptoum. Et donc, c'est toujours la question de départager Shubram et Hayasumu. En ce qui concerne le groupe de plongeurs de Shubram et Hayasumu, que Monseigneur m'avait envoyé, j'ai envoyé avec ce groupe de plongeurs des prud'hommes de confiance. Pour commencer, ils ont fait plonger une femme et elle est sortie de l'eau. Après elle, ils ont fait plonger un ancien. En nageant sur une distance de 80 mesures, en plein milieu du dieu, il a réussi, puis il est sorti. Après lui, on a fait descendre une deuxième femme et elle est sortie. Après elle, le fleuve a englouti une troisième femme. Étant donné que l'ancien n'avait prouvé de droit que sur une longueur de 80 mesures et que le fleuve a englouti la troisième flamme, les gens de Khayasumu n'ont pas été d'accord pour qu'on fasse plonger les trois femmes suivantes. Ils ont établi ceci. « Ville et terre ne sont pas à nous. » L'ancien est tombé au pied des gens de Shubram en disant « Ne faites pas plonger les femmes suivantes, qu'elles ne meurent pas. Nous voulons bien produire une tablette de non-revendication au sujet de la ville et de la terre, de sorte que nul ne revendique pour la suite des temps, la ville et la terre appartiennent bel et bien à Shubram. » Par devant les prud'hommes, les domestiques babyloniens et les anciens de la ville, on leur a fait rédiger une tablette de non-revendication. J'envoie donc maintenant ce groupe de plongeurs chez Monseigneur, que Monseigneur les interroge. Donc c'est une lettre qui est cruciale par différents aspects. Elle montre d'abord qu'il s'agissait d'un véritable exploit sportif. Selon l'interprétation de Jean-Marie Durand, il fallait qu'un groupe de gens plonge dans le fleuve, remonte à la surface et parcourt une certaine distance. Et on voit bien ici que le fait de couler était considéré comme un verdict de culpabilité de la part du dieu, même si l'emploi du verbe « rehum » est étrange. Alors, un des sens de ce verbe, c'est en effet « déverser » et notamment au sens sexuel « inséminer »,« engendrer ». Et la traduction « engloutir » de Jean Bottero est purement contextuelle. Jean-Marie Durand avait hésité sur le sens du verbe, mais la traduction qu'il avait retenue « épouser » n'est pas très convaincante. Mais quoi qu'il en soit de ce problème d'étymologie, le sens est clair. Si quelqu'un coule, c'est que le dieu fleuve rejette la thèse qu'il défend. Et un des éléments qui me paraît ici essentiel et qui n'a guère retenu l'attention des commentateurs jusqu'à présent, c'est la réaction de l'ancien. Celui-ci propose de rédiger une tablette de non-revendication. Et le mot qui est employé, qui est ici en rouge, « tupi la ragamim », c'est exactement le même que celui qu'on trouve dans la plupart des procès de Mésopotamie centrale et méridionale. Alors évidemment, dans le cas présent, on aimerait bien posséder le document qui a été mis par écrit, mais en tout cas, ça montre tout à fait que l'ordali s'inscrit complètement dans le cadre d'une procédure judiciaire normale. C'est simplement les moyens d'établir la preuve qui diffèrent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on possède une lettre de Shubram qui se rapporte manifestement au même cas. Je la cite. « Au sujet de mes villes que Khayasumu détient, j'avais exposé ma plainte devant mon père, c'est-à-dire Zimrilim, à une ou deux reprises. À présent, les gens de Kourdouba ont pris la ville de Kalmatoum. Moi-même et Khayasumu, nous avons été en contestation devant mon père. Mon père a assigné au fleuve mes anciens et les anciens de Khayasumu. Une femme de Khayasumu est tombée dans le fleuve. Le dieu de mon fleuve m'a jugé. Je me trouvais dans mon droit. Alors, mon père a rendu le jugement que voici. Une ville entraîne l'autre. » Alors ici, on peut supposer que les gens, en plongeant, n'ont mentionné qu'une des deux villes et qu'on considère que ça suffit pour toutes les villes. Et à présent, que mon père m'envoie une décision complète. Et donc, dans cette lettre, on ne décrit pas le détail de la procédure, mais on voit que ça correspond au premier texte que nous avons lu juste avant. C'est une femme qui faisait partie du groupe des plongeurs de Khayasumu qui a succombé. Et donc, on voit une sorte de double jugement. Le dieu fleuve a jugé et confirmé le droit kittoum de Shubram, mais c'est Zimrilim qui, en définitive, tranchera le cas. La suite de cette lettre, qui concerne un autre cas, montre un autre élément essentiel. Les parties devaient se mettre préalablement d'accord sur le libellé de ce que le plongeur devait déclarer. Autre chose. En ce qui concerne le groupe de plongeurs de Yarkabaddu, à propos duquel Monseigneur m'a écrit précédemment, le Shangoum et Ashtamarum, le préposé Shaknoum de Hit, sont venus me trouver. Au sujet de Hamat Sakanim, de la famille de Samsiadou, que le fleuve a englouti, ils m'ont dit « Voici comment nous l'avons fait plonger. » Et là, il y a une citation dans la citation. « Puisses-tu couler si ta maîtresse a fait de la sorcellerie contre Yarkabadou, son seigneur, si elle a révélé les affaires du palais, et si un autre a ouvert l'entrejambe de ta maîtresse, et qu'ainsi ta maîtresse a fauté envers son seigneur ?» C'est à propos de cela qu'on l'a fait juger. Le fleuve l'a engloutie. Elle n'est pas remontée. Alors, Jean-Marie Durand avait traduit les lignes 37 à 41 sous forme de questions. Ta maîtresse a-t-elle fait de la sorcellerie contre Yarkabadou, son seigneur? A-t-elle révélé les affaires du palais? Un autre a-t-il ouvert l'entrejambe de ta maîtresse? Ta maîtresse a-t-elle fauté envers son seigneur? Il était ici influencé par les textes divinatoires qu'il publiait dans le même recueil. Mais en réalité, la formulation sous la forme d'une conditionnelle en chouma suivie par un subjonctif correspond exactement à la syntaxe des serments. Il s'agit donc d'une forme de malédiction implicite et c'est pour ça que j'ai rajouté entre parenthèses, « Puisses-tu couler ?» On relève en outre que Lord Ali impliquait un Shangoum, qui donc était sans doute le prêtre administrateur du temple du dieu fleuve. C'est le seul texte relatif à Lord Ali qui en fasse mention. Et on voit aussi l'intervention d'un Shaknoum de la ville de Hit. Une autre lettre indique que cet Ashtamaroum occupait une forteresse dans cette ville. C'était donc sans doute le chef de la garnison locale. La procédure, vous le voyez, était donc très encadrée, et suivant une suggestion de Nelle Ziegler, on pourrait interpréter ce texte en considérant que la personne qui allait plonger prononçait un serment dans le temple du dieu fleuve, et en l'occurrence, il faut rétablir la citation à la première personne, Amat Sakanim aurait donc prononcé dans le sanctuaire cette auto-malédiction. « Que je coule si ma maîtresse a fait de la sorcellerie contre Yarkabadou, son seigneur, etc. » Puis elle aurait été conduite au fleuve où la malheureuse aurait sombré. Donc il faut l'avouer, les descriptions de l'épreuve même de Lord Ali ne sont pas aussi claires qu'on aurait pu le souhaiter. Et à la suite des nouveaux textes publiés par Jean-Marie Durand en 1988, deux théories différentes ont été émises. D'abord, celle de Wolfgang Heimpel, qui a publié un article très original, qui mettait l'accent sur le fait que la caractéristique de Hit, c'était la présence de sources de bitume. Et pour lui, l'épreuve consistait à plonger dans une de ces sources. Mais il s'appuyait surtout sur un texte littéraire du premier millénaire, et il était obligé de distordre certaines des données des textes de Marie pour les faire entrer dans son schéma. Et donc, tout le reste invite à croire que Lord Dali était bien effectué en plongeant dans le cours d'eau. Et si la théorie de Heimpel était juste, il devrait y avoir au moins un texte de Marie qui fasse allusion au bitume. On en a suffisamment, ça n'est pas le cas. Reste que Hit était un lieu particulier et que les sources du bitume étaient certainement vues comme le signe d'une présence particulièrement intense du dieu fleuve à cet endroit. Et puis, un peu plus tôt, Guillaume Cardassia avait élaboré une nouvelle façon de comprendre qui prenait en compte un texte que j'avais publié en 1992. Celui-ci semble à première vue très différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. On a une liste de champs dont on indique la situation cadastrale et pour l'une des parcelles, il y a une notice tout à fait étonnante. 70 arpents, champs, nouveaux terrains inondables. Au sujet duquel champ, Abimatar et Alpan ont eu un procès. Abimatar est allé chez Yardounlim et il a apporté 10 mines d'argent et 1000 moutons à Yardounlim en disant « Sauve-moi ! Si le champ appartient à Alpan, qu'un serviteur d'Alpan soulève une meule et lui fasse traverser le fleuve. » Le serviteur d'Alpan a soulevé une meule, mais il a coulé pendant sa traversée. Un serviteur d'Abimatar a soulevé une meule, il lui a fait traverser le fleuve et ainsi Abimatar s'est emparé du champ. Et Yardounlim a saisi sa main par devant Sintapé, le vizir de Yardounlim. Donc on a ici un exemple de ce qu'on appelle une ordalie double, et on pourrait s'étonner qu'on n'arrête pas l'épreuve après que le premier champion a coulé, mais le texte est parfaitement clair. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il est question non pas de nager sur une certaine longueur, mais il est question de traverser le fleuve, et pour Guillaume Cardassia, les francophones interprètes des autres textes de Marie ont été victimes de la traduction de Shulum par plongée. Il serait simplement question d'immersion. D'où sa théorie. La discussion précédente conduit à penser que l'ordaliste entrait dans l'eau sur ses deux jambes. Il s'avançait vers le milieu du fleuve, perpendiculairement à la rive jusqu'à trouver une eau assez profonde pour que le dieu puisse à son gré le prendre ou l'épargner. La distance imposée était prévue à cette fin. Le patient se trouvait bien alors au sein du dieu. L'hypothèse vient d'être confirmée par le texte récemment publié par Charpin, où deux personnages se disputent un terrain situé aux bordures de l'Euphrate. Leurs champions devront soulever une meule et traverser le fleuve. Sur un point, le document apporte à notre hypothèse une confirmation irréfutable. L'épreuve consiste à traverser le fleuve et non à le longer. On nous accordera peut-être aussi que les champions n'ont pas plongé, mais marché. Ils n'auraient pu plonger et nager lestés d'une meule. Ils la portaient vraisemblablement sur leur tête, suivant l'usage commun. L'espèce est atypique à deux égards, le port de la meule et la traversée complète. Charpin explique le second trait en supposant, à juste titre, que le champion devait atteindre la terre convoitée pour en prendre symboliquement possession. Dans les ordalies communes, la traversée ne s'imposait pas, le patient devait s'avancer suffisamment dans le fleuve pour s'exposer au jugement divin. Alors c'est une idée qui est intéressante, mais qui suscite aussitôt des interrogations, parce que selon la saison à laquelle avait lieu l'épreuve, le niveau de l'Euphrate était en effet très différent, le courant plus ou moins fort, donc il y avait des tas de paramètres, et on se demande comment tout ça pouvait être pris en compte par les gens qui arbitraient l'épreuve. Et je terminerai par un texte qui a été découvert par Jean Margueron à Marie en 2002 et qui a été récemment publié par Antoine Cavignon. Une nouvelle traduction et étude de ce document par Ilya Ripov doit paraître prochainement. Selon ce dernier, l'objet du litige est un terrain nu sur lequel un individu a bâti une maison. Et le texte enregistre les déclarations différentes à ce sujet de 5 individus. Et donc le problème ici, c'est qu'on n'a pas affaire à une alternative, comme dans les cas qu'on a examinés jusqu'à présent. Il faut choisir entre 5 thèses. Et le document, qui est un peu cassé, se termine heureusement de façon claire, mais tout à fait étonnante. Si parmi ces 5 individus qui vont plonger dans le fleuve, si tous meurent, il n'y a rien. Si un homme meurt et 4 hommes survivent, il n'y a rien. Si 2 hommes meurent et 3 hommes survivent, il n'y a rien. Si 3 hommes meurent et 2 hommes survivent, il n'y a rien. Si 4 hommes meurent et 1 homme survit, nous agirons selon la déclaration de l'homme qui a survécu. Donc il est très remarquable de voir la façon dont un tel protocole était établi avant que l'épreuve ordalique soit accomplie. Il reste que nous sommes très étonnés de voir envisager la possibilité d'avoir jusqu'à 4 morts pour trancher une affaire immobilière. On voit de plus en plus clairement qu'il n'y avait pas alors de séparation entre droit privé et droit international. On trouve dans les deux domaines les mêmes pratiques en ce qui concerne les automalédictions, l'accomplissement de gestes symboliques comme le fait de se toucher la gorge ou encore le recours à l'ordalie. La semaine prochaine, nous traiterons la question du droit public et je vous remercie de votre fidélité et de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.